Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, je suis Lomik Guillot, je suis rédacteur en chef du magazine Management. Je suis ravi, au nom du magazine partenaire du Salon et du Salon, de vous accueillir ici cet après-midi. Avant de démarrer, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée, qu'il vous sera possible de la réécouter dans quelques jours sur le site du Salon. Donc inutile de prendre des notes, concentrez-vous sur ce qu'on vous raconte. Et puis, puisque nous sommes ici cet après-midi pour parler de numérique, n'hésitez surtout pas à partager en direct vos impressions, vos questions, vos réactions sur les réseaux sociaux et sur Facebook ou comme vous voulez, à l'aide du hashtag SalonSME. Le programme de l'après-midi, c'est simple, agilité, management, innovation, les secrets des entrepreneurs du web vont vous être révélés cet après-midi, enfin en tout cas certains. C'est ce que nous avons prévu de partager avec vous. Alors quand on parle d'agilité, il y a une image qui revient souvent, c'est celle de la chèvre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la chèvre, mais en gros, au pied d'une montagne, il y a deux façons de la gravir. Soit on file tout droit, sans réfléchir, ou bien on fait comme certaines chèvres championnes d'escalade qui sont capables de grimper à des parois verticales. On commence par regarder, on observe, et puis on cherche le chemin le plus approprié, le plus sûr pour atteindre le sommet, même si ce chemin n'est pas la voie la plus directe ni la plus courte. Voilà. Donc nous avons à côté de nous des chèvres, puisqu'ils se sont attaqués chacun à leur façon à des marchés, des gros marchés, à des positions parfois dominantes, on le verra, et qu'ils ont su trouver la voie, notamment grâce au numérique et à ces outils, pour atteindre sans grabuge le sommet. Quand on parle d'agilité et d'innovation, le danger, évidemment, vous l'avez compris, c'est de confondre ça avec de la précipitation, c'est de penser que puisqu'on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, il faudrait absolument être le plus rapide et le premier. Or, quand on parle d'entrepreneuriat, vous le savez sans doute mieux que les autres, la précipitation est rarement une bonne option. Il y a d'ailleurs une phrase de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, qui dit qu'en matière de numérique, se demander ce qui va changer n'est pas la bonne question. La bonne question, dit-il, c'est ce qui ne va pas changer dans les 5 ou les 10 prochaines années. Et justement, pour vous qui êtes sans doute en train de monter votre boîte, ce qui ne va pas changer avec le numérique, bah, c'est qu'il va falloir trouver des clients, comme avant, ça on va en parler, et puis aussi leur vendre vos produits ou vos services, puisque c'est là le cœur de la question. Ce qui ne va pas changer, c'est aussi qu'il va falloir vous faire connaître, faire parler de vous, vous faire aider, accompagner, aller chercher ses clients et les convaincre de vous faire confiance. Alors c'est vrai qu'avec le numérique, et on va le voir, les outils pour faire tout ça sont plus nombreux qu'avant, sont souvent gratuits, accessibles, très puissants. Nous vous dirons comment notamment bien les utiliser. Et pour tout cela, nous avons réuni cet après-midi un panel de chèvres acrobates, des entrepreneurs agiles, que je vais vous présenter. Alors, pas dans l'ordre, puisque j'ai écrit mes fiches avant qu'on s'installe. On va commencer par Carole Juge, qui est au milieu. Bonjour Carole et bienvenue. Alors vous êtes fondatrice de June, vous m'arrêtez si je dis une ânerie, hein. C'est une marque de couches, notamment sur abonnement, en tout cas c'est comme ça que vous vous êtes lancée. Vous proposez des couches sans perturbateurs endocriniens, sans chlore, phtalates ni parabènes et 100% made in France. Vous vendez aujourd'hui 1,5 million de couches par mois, si le chiffre est bon.
Non, le chiffre est plus bon.
Le chiffre est plus bon, non, déjà, non, ça va très vite.
Hein, ouais, ouais, donc, ça va vite. Non, on a commencé historiquement par la couche, c'est le produit par lequel on s'est fait connaître. On a très rapidement développé beaucoup de produits connexes. Donc aujourd'hui, on est un peu le spécialiste de tout ce qui est clean dans l'univers de l'enfance et de la femme enceinte, puisqu'on fait du textile, de l'hygiène, des produits de soins pour les bébés et pour leur maman et future maman. Et on vend plus de 1,5 million de couches par mois.
Donc, 2,5 millions.
Oui, ça a monté un peu.
Un détail. Avec votre marque, vous êtes vous carrément attaqué à un marché qui était jusque-là dominé par des mégas industriels mondiaux, tels notamment Procter et sa marque Pampers. Et c'est là toute la force et la magie presque du numérique, c'est qu'aujourd'hui, avec des outils digitaux, on peut rapidement faire trembler les plus grosses boîtes en partant de quasi rien ou presque, puisqu'au départ, vous aviez une communauté de quelques centaines ou milliers de membres sur Facebook, et donc aujourd'hui 2,5 millions de couches par mois.
On a commencé avec 3 000 parents sur Facebook qui nous suivaient, qui étaient très alignés avec nos valeurs. Et voilà, et en fait, on est parti un peu de ça. Et puis après, le bouche à oreille a fait son effet. On a été classé meilleure couche de France devant un certain nombre de marques historiques sur le marché l'année dernière. Et donc, après, le reste a fait son. Le bouche à oreille a été très fort. La communauté est très forte. Et c'est vrai que moi, je trouve ça chouette parce que ça me fait plaisir au quotidien d'échanger beaucoup avec ma communauté.
Et on reviendra aussi tout à l'heure sur une notion qui est importante, c'est celle de la transparence. Et vous nous direz pourquoi. À vos côtés, Sandra Legrand, bonjour. Vous êtes multi-serial entrepreneur, on pourrait le dire, mais vous êtes ici notamment parce que vous avez cofondé yapuka.org, une plateforme de mise en relation entre élèves ou jeunes actifs et coach pour la préparation, notamment aux examens d'entrée aux grandes écoles, aux entretiens d'embauche, aux stages. Vous vous faites travailler, notamment à travers l'écran, tout ce qui est prise de parole. Vous nous expliquerez comment ça marche. Et puis, bah, vous, votre particularité, c'est aussi que vous devez trouver à la fois des clients et puis ces coachs et vendre votre plateforme aux deux.
Absolument. Donc, j'ai effectivement d'un côté des clients qui peuvent être ou des parents ou des jeunes. Souvent, c'est les parents qui financent aussi un petit peu les entretiens. Mais j'ai aussi, de l'autre côté, effectivement, des entraîneurs, que j'appelle entraîneurs-coach, effectivement, une communauté aujourd'hui de 130, on va y revenir. Et effectivement, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, nous faisons aussi le pitch entrepreneur, puisque qu'on parle d'oral, d'entretien d'embauche, d'éloquence ou de pitch, voilà, c'est les mêmes ressorts. Et je pense que la parole... Moi, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola, j'ai vu ce que c'était que savoir prendre la parole, savoir pitcher, savoir présenter un projet. Et c'est une puissance formidable. Et voilà, je le souhaite à tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on en a fait notre métier avec Valérie Falala, la cofondatrice de yapuka.org. En plus, yapuka, voilà, yapuka réussir, yapuka se lancer.
C'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui sont avec nous cet après-midi. Tout au bout, Henri de Maublanc, vous êtes président du site aquarelle.com. Présent dans 7 pays, Aquarelle, c'est aujourd'hui le leader de la vente de fleurs sur Internet en Europe. Pourtant, au départ, vendre des fleurs sur Internet, ce n'était pas forcément gagné. Vous nous raconterez les dessous de votre success story, puis vous nous expliquerez si, à votre avis, tous les produits et les services sont aujourd'hui digitalisables, puisque vous-même, vous avez d'abord monté un magasin physique et en dur pendant 10 ans avant de lancer votre site. Aujourd'hui, vous nous confirmez, vendre des fleurs sur Internet, c'est comme vendre n'importe quel autre produit.
Justement, pas du tout.
Alors, acheter des fleurs sur Internet, c'est comme acheter n'importe quel autre produit.
Non, moi, je n'ai pas commencé avec des magasins de fleurs. En fait, j'ai commencé dans les télécoms. Donc, je suis un vieux. Hein, j'ai presque 70 ans. Donc...
Je ne suis pas remonté aussi loin. Hein. Je parlais juste d'aquarelle.
Je suis de la génération de Xavier Niel et ces gens-là. Moi, je n'aime pas trop être dans le journal, donc je suis plus discret. Mais j'ai commencé dans les télécoms et dans le Minitel. On a oublié un peu le Minitel.
Ah, on ne vous entend pas, il faut parler plus près. Allez-y, ici.
Donc je dis, j'ai commencé dans le Minitel et les télécoms, et le Minitel a été un extraordinaire vecteur de compréhension dans notre pays du marketing, parce qu'on était plutôt un pays d'ingénieurs. On nous apprenait à l'école qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Alors qu'en Angleterre, où je trouve que j'ai été à l'école en Angleterre, là, on vous dit, vous commencez par vendre la peau de l'ours, et puis après, on verra comment on le trouve. Et l'économie d'aujourd'hui est beaucoup plus une économie comme ça, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut trouver des clients. Puis une fois qu'on a des clients, ben, on regarde comment on les développe. Donc l'histoire d'Aquarelle, c'est en fait tout ce qu'on avait gagné dans le pré-numérique, si on peut appeler le Minitel du pré-numérique. Je me suis dit, moi, quand je vais être un peu plus vieux, ça va devenir compliqué, donc je voudrais un métier plus stable. Et à l'époque, Rothschild avait investi dans Montsoufleur, qui était pas mal, mais qui n'était pas très joli. On a voulu créer des magasins de fleurs un peu plus structurés. On a créé Aquarelle et Au nom de la rose. Et puis, en fait, pendant 10 ans, on a jusqu'à eu 60 magasins. On ne gagnait pas d'argent avec les magasins. On gagnait de l'argent en les vendant, on faisait de l'immobilier, mais c'était un métier très difficile et Internet est arrivé et la disruption qu'on a utilisée est par rapport à Interflora. Depuis des années, Interflora qui a été créé en 1910 ou 1911 par une intervention assez intelligente d'un marchand qui était à Berlin, dont les clients étaient les princes allemands et russes, dont les épouses, ou probablement plutôt les maîtresses, étaient sur la Côte d'Azur pendant l'hiver. Et ce marchand était très lié au fleuriste du Negresco, et grâce au mandat télégraphique qui est né à ce moment-là, il a inventé le système où on envoie de l'argent, on envoie des fleurs. Et le réseau Interflora était né comme ça. Et nous, avec nos magasins, on était l'un des plus gros donneurs d'ordre, puisque en fait, pour envoyer des fleurs quelque part, il fallait aller dans un magasin et dire, voilà, je voudrais envoyer des fleurs à Marseille. Et donc, on a tout de suite compris qu'il y avait une espèce de mécontentement du client, parce qu'il ne savait pas très bien quel était le produit qui allait effectivement arriver au bout. Et avec Internet, on a inventé l'idée de
Ah, eh bien, vous nous direz après, parce que cette idée est essentielle dans votre business. Donc on va faire un peu de teasing
tout ça pour dire
et laisser
que
le suspense.
Le numérique n'est qu'un hasard dans notre activité.
Et on ne peut toujours pas télécharger de bouquet de fleurs aujourd'hui, mais en revanche, vous nous expliquerez quel est ce petit twist que vous avez mis au point qui a fait le succès d'Aquarelle. Puis on va juste finir les présentations avec quelqu'un qui a presque autant d'expérience que vous sur Internet. Vous avez l'âge du Minitel, Maxime, presque, on peut...
Je suis né avec le web, exactement, parce que c'est 88. Voilà.
Et vous n'en avez pas l'air, mais vous êtes un des pionniers du net en France, puisque vous avez appris à coder à 7 ans, et vous n'êtes pas arrêté depuis. Vous avez d'ailleurs même, notamment aujourd'hui, une activité d'école de développement, si j'ai bien compris, à Reims, d'où vous êtes originaire. Vous avez surtout créé, on vous a connu pour ça, le site VideMerde, qui est toujours très actif, et sur lequel, j'espère, personne n'aura l'idée d'aller poster quoi que ce soit à propos de cette conférence.
Vous pouvez y aller quand même, c'est pas grave.
Un phénomène toujours mondial. Et puis, vous avez créé d'autres sociétés, toutes sur le web depuis. Une des dernières, Beta Série, une communauté francophone, notamment de fans de séries télé et qui a beaucoup d'autres fonctionnalités. On verra avec vous comment le numérique permet de tester très vite et pour presque rien ses idées, notamment grâce aussi à d'autres plateformes que vous avez.
Et on a aussi un stand 5euros.com sur lequel vous êtes peut-être passé, qui est une société que j'ai créée il y a 5 ans ou 6 ans maintenant. Voilà. J'ai un bébé depuis le 30 juillet qui consomme 1 million de couches par mois à peu près. Voilà. C'est pour les statistiques.
Et enfin, Dominique Restineau, à mes côtés, vous êtes président de la CCI de Paris-Île-de-France et fondateur notamment du MOVJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs qui fête ses 10 ans cette année. Vous êtes multi-entrepreneur vous-même et observateur assez incontournable du monde de l'entreprise. Alors, j'ai une question assez simple. Finalement, on a commencé à le voir et à l'évoquer. Le numérique permet d'aller très vite, de tester des idées, de lancer son business avec très peu d'argent. Mais est-ce que la vitesse est une bonne chose quand on monte sa première boîte ?
Je vais juste commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste commencer par une petite rectification. Je ne suis que le petit président du petit Paris, pas de Paris-Île-de-France.
Très bien.
Normalement, on dit mais c'est déjà Paris, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, je vous garantis. 262 000 entreprises et commerces dans Paris. Donc votre question, c'était...
Est-ce que la vitesse est une bonne chose quand on monte sa première boîte, puisque le numérique permet d'aller très vite ? J'ai peut-être dit trop vite, c'est pour ça.
Je vais répondre à votre question, parce que vous avez dit tout à l'heure sur Jeff Bezos. Qu'est-ce qui ne changera pas ? Que ce soit le temps de la préparation, le temps de l'exécution, il peut être plus ou moins court, mais il faut passer par là, même avec le lean learning. Ce qui ne change pas, c'est l'envie de se lancer. Ça ne changera jamais. Je crois qu'ils sont dans la salle pour ça. Ce qui ne changera pas, c'est on peut y aller tout seul. C'est un peu plus casse-gueule. On peut être accompagné. Il paraît, et je confirme, que ça augmente le taux de survie des entreprises quand elles se lancent. Ce qui ne change pas, ce qui change, et dans la rapidité, c'est qu'on trouve de l'argent. Contrairement à ce que parfois on pense, on arrive à trouver de l'argent parce qu'il y en a. La rapidité, j'ai envie de dire, on peut lancer un business sur Internet, ça peut coûter 100 balles, on va aller sur PrestaShop, Henri connaît bien, on va ouvrir une boutique en ligne. Après, si c'est pour se planter 2 heures après, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment réfléchir en amont pour savoir avant toute chose qui on est. Qui on est. La question des marchés, en devenir, machin, tout ça, je crois que c'est de la foutaise, c'est d'abord qui on est. Et je crois, par contre, ça c'est mon point de vue, c'est ma philosophie, on ne fait que ce qu'on est. Voilà. Pardon ? Et ce qu'on aime, ouais, je crois qu'on finit par l'aimer. Il y a des gens qui ont créé des boîtes, ils n'étaient pas passionnés, Sandra, mais ils se sont trouvés que c'était super.
Si la passion, c'est indispensable.
Ah non, la passion, oui, mais la passion d'entreprendre, la passion de monter des projets, la passion d'avoir des équipes. La passion d'intégrer du monde, de former des gens, de les rassembler, d'essayer d'innover. Et l'innovation, y compris technologique. Voilà. Donc, je mets Internet dans... Voilà. Internet, ça permet d'aller plus vite quand c'est bien lancé. D'accord ? Mais on peut créer un site très rapidement, très bien. Ce n'est pas pour ça qu'il y a forcément une boîte. Alors, on peut se faire plaisir, hein ? D'accord ? Mais je ne pense pas que là, c'était juste un petit site pour lancer un petit truc tranquille. Voilà, là, il y a des entreprises. On peut lancer une première version de quelque chose qui n'est pas forcément encore topissime. D'accord ? Ce n'est pas le problème, mais ça permet de lancer. Je m'arrête parce que sinon, Sandra, elle va dire, tu lui files la parole, il la garde.
On va demander à Carole son avis, puisque vous-même, vous avez monté une première entreprise avant de connaître le succès avec June. Et le problème, c'est que vous n'aviez pas forcément bien imaginé le business model. C'est ça, l'histoire ?
Moi, je n'avais pas de business model du tout. Il faut être très honnête avec ce genre de choses.
Encore plus clair.
Non, ouais. il faut assumer. Alors, il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce que vous avez dit. Il y a des choses avec lesquelles je suis 100% alignée. Il faut être patient. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas alignée. On en parle après, ne vous inquiétez pas. Non, mais je suis hyper alignée par le fait qu'il faut être animé. Moi, j'ai pas une passion fondamentale. Je ne rêve pas de couches pour bébé la nuit. Je rêve de transparence, je rêve des valeurs qui sont associées à ma boîte. Mais je veux dire, c'est la première question que me posent tous les journalistes, c'est « Oh, mais vous devez être maman pour avoir pensé à June. » Et non, j'ai pas la chance d'être maman, mais ça m'a pas empêché de faire une boîte dont la cible absolue, c'est les jeunes parents, les familles. Donc ça, déjà, c'est important. Il y a un truc que vous avez dit, et c'est là où, alors, je sais que c'est vrai, mais en même temps, je suis le contre-exemple parfait, et je pense que c'est très important de le dire parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans cette pièce, c'est que moi, je cumule un petit peu la double peine. C'est-à-dire que je suis une femme et en plus, je suis seule. Donc, en gros, quand vous regardez les statistiques, les fondateurs seuls, c'est la mort. Tout le monde vous dira, n'y allez jamais seule, c'est une connerie. Et en même temps, quand vous êtes une femme, j'ai fait partie de la campagne Sista il y a quelques jours, bah oui, forcément, j'ai 5% de chances d'être financée contre 95% si j'étais un mec. Donc ça, c'est quand même un message qui est très important de dire, on peut être une femme, on peut être seule et on peut quand même y arriver. Ça demande beaucoup de temps et être accompagnée, ça ne veut pas forcément dire avoir un associé ou avoir des associés, ça veut juste dire être ouvert dans l'esprit et justement réussir à se projeter sur un vrai problème. Et
je ne parlais pas d'association. Hein.
D'accord.
Je parlais d'accompagner avec des réseaux d'accompagnement.
Alors, moi, j'en ai pas non plus.
Oui, mais tu es jeune, hein. Ça compense.
Non,
hein.
Non,
la jeunesse, ça plaît.
Alors, je ne sais pas si c'est dans la jeunesse. En étant très honnête, quand on est une femme, c'est vrai que naturellement, il y a pas mal de facilités en termes de communication parce que on a l'impression, quand on est une femme, qu'on monte une entreprise, que les gens ont envie de vous applaudir à demain. Oh là là, vous êtes une femme, vous avez réussi, mon Dieu, mais c'est exceptionnel. Non, juste, je travaille très dur et que je sois une femme ou pas une femme, c'est exactement pareil. Donc, évidemment, d'un point de vue comme ça sert, mais au-delà de ça, c'est pas juste le fait d'être une femme, c'est que on est des très très gros bosseurs chez June et je suis, j'ai monté cette boîte et c'est ma vie, mon sang, mon quotidien absolu, je donne absolument tout. Et le fait que je sois une femme n'est qu'un point parmi la nébuleuse June, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Et voilà. Et je ne sais plus la question de départ, mais j'ai rebondi sur ce que tu avais dit.
C'est très bien. Non, la question, c'était aussi sur le fait de se lancer rapidement sans forcément être totalement prêt. Et je rappelais que vous aviez connu une première expérience avant June qui n'avait pas fonctionné du fait que vous étiez peut-être allé un peu vite.
Et ben alors, en fait, je pense que c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que sur ma première boîte, je n'arrivais pas à prendre les décisions assez vite. Je me faisais plein de nœuds, je ne me faisais pas assez confiance. Je pense que la pire censure pour un entrepreneur, c'est toujours soi-même. On ne se fait jamais confiance, on n'ose jamais, oh bah non, je ne vais pas mettre ça, ce ne sera pas ça, oh bah non, je ne vais pas faire ça. Non, il y a un moment, il faut trancher. Si c'est une décision pourrie, on le verra tout de suite et donc on pourra trancher plus vite pour changer la décision. Plus vous attendez pour prendre une décision et plus au final, si la décision n'est pas la bonne, vous paierez encore plus les conséquences. C'était ça l'erreur de ma première boîte. J'ai tourné un peu autour du pot, je n'avais pas vraiment de business model, je ne trouvais pas vraiment ça grave. Un jour, le couperet tombe, il faut virer les gens, il faut plier la boîte, il faut être interdit bancaire. Et ça fait vraiment mal, quoi. Là, vraiment, on se dit, je suis au fond du fond du fond, vous voyez qui sont vos vrais amis, c'est un moment qui est difficile. Et ce qui fait que derrière, quand j'ai lancé June, je me suis dit, ok, c'est pas compliqué, du moment où tu mets le produit en vente, tu as 6 mois pour vérifier qu'il y a un product market fit. Si au bout de 6 mois, les gens ne sont pas en transe sur le produit, à la fois la qualité, la transparence, le service, la livraison à domicile, le design, si tes propositions de valeur ne trouvent pas un écho, eh ben, c'est que ton idée, elle était pourrie et tu passes à autre chose. Et c'est pas une question d'aller trop vite, c'est une question d'avoir des objectifs. Alors, on utilise beaucoup chez June l'acronyme SMART, qui est spécifique, mesurable. Alors, je sais plus comment ça fait en anglais, atteignable, timé, et le R, je sais jamais, je me trompe tout le temps. Réaliste, voilà. Mais c'est ça, un bon product market fit, c'est se dire, j'ai tant de temps pour faire tant de choses, et si à la fin de ce temps-là, et ce temps-là, ça n'est pas 2 ans, le temps légal derrière des indemnités chômage qui vont vous permettre de monter votre boîte, 2 ans, c'est trop long, clairement. Je pense qu'il faut être honnête et se dire, je prends 6 mois pour préparer, je prends 6 mois pour faire un product market fit, et derrière, vous aurez un peu de temps pour retourner. Moi, j'ai plein de copains et de copines qui étaient avec moi quand on a monté ma première boîte, on était dans la même pépinière, et moi, j'avais pas la chance, j'étais fonctionnaire, donc j'avais pas de chômage, donc je pouvais pas me dire je faisais les deux en même temps, c'était très compliqué. Mais il y a dans l'urgence, c'est un peu comme un artiste, quoi. Dans l'urgence et dans la volonté de se dire, faut absolument que ça marche, ou au moins que je vois que ça va commencer de marcher, plutôt que de dire « Ah oui, mais ça ne marche pas parce que… » faut trancher vite et assumer vite les conséquences dans le positif ou dans le négatif. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la force de June. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 40 produits, on livre dans plus de 18 pays. Parce qu'en fait, on fait un marathon qui dure depuis 2 ans. Parce qu'on dit faut courir, il faut courir, il faut courir, il faut courir. Et on ne s'arrêtera pas, quoi.
Reprenez votre souffle quand même, 2 minutes. Henri, on parlait de rapidité et du fait de se donner peut-être que 6 mois pour réussir. Vous, quand vous avez lancé aquarelle.com, c'était en 97. Et en décembre 97, si le chiffre que j'ai retrouvé est bon, vous aviez expédié 30 commandes contre combien maintenant par an? 800, 1000?
1 million.
1 million maintenant.
Donc c'est un peu moins que les couches. Là, mais je me suis trompé de marché.
Je pense qu'un bouquet coûte plus cher qu'une couche, hein, même si.
Mais bon, Aquarelle, ça n'est qu'une des boîtes de notre groupe, donc c'est celle qui est la plus connue. Et on est des entrepreneurs dans le sang. Et moi, je partage tout ce que vous venez de dire. En fait, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans avec Claude Perdriel, qui était le propriétaire du Nouvel Observateur, et qui m'a appris qu'il fallait tester vite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de tester vite. C'est une des raisons pour lesquelles le numérique permet aux entrepreneurs d'aller plus vite dans ce qu'ils font, c'est qu'on peut mesurer des résultats extrêmement vite. Et vous êtes une femme, nous, on a beaucoup de femmes dans notre groupe parce qu'elles sont, beaucoup plus rapides. Les mecs, ils hésitent pendant des heures. Quand il y a un truc un peu pourri, ils le cachent avant de le dire, avant d'être sûr qu'ils ne vont pas pouvoir le régler. Et toutes les femmes sont effectivement beaucoup plus énergiques et beaucoup plus rapides. Aquarelle, ça s'est trouvé en fait un hasard. On avait créé tous ces magasins parce que je voulais investir de l'argent ailleurs que dans les médias, dans les agences médias, dans la com et tous ces trucs-là, en me disant c'est plus pépère comme métier. Et en fait, c'est pas si pépère que ça. Les magasins en chaîne succursaliste, c'est très difficile parce que vous avez des concurrents qui sont des artisans fleuristes souvent de grande qualité, surtout en France et en particulier à Paris, qui travaillent 35 heures par jour et non pas par semaine avec leurs femmes, leurs enfants, alors que nous, on était obligés, pour être ouverts jusqu'à 9 heures du soir et le dimanche, on avait des coûts extrêmement importants. Et quand Internet est arrivé, on s'est dit, là, on va pouvoir montrer des catalogues, même si les débits n'étaient pas... Les débits, au début de l'Internet, hein, c'était nul. Hein. Il y a d'ailleurs eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un dessin de plantu dans Le Monde en 2000, où on voyait deux personnes. Il y avait un type qui était devant un Minitel en train d'acheter un billet de train et un autre qui était devant Internet pour acheter un billet de train. Et celui qui était devant le Minitel disait « Maintenant que je connais Internet, je trouve que le Minitel, c'est vachement rapide. » Donc, ce qui était vrai. Et donc, de mettre des photos pour vendre des bouquets, ce n'était pas tellement évident, mais on a essayé ça en se disant « On va pouvoir fabriquer les bouquets au même endroit. Grâce aux messageries rapides, on peut les expédier dans de l'eau, dans des vases, comme on le fait. Donc, avec une qualité de service qui garantit finalement des bouquets qui vont durer plus longtemps que ceux que vous achetez dans un magasin. »
Et c'est là que vous avez eu cette idée incroyable dont on parlait tout à l'heure et qui a fait la différence, qui est de joindre
de prendre en photo
la photo, voilà, du bouquet au moment de l'expédition et de l'envoyer à la personne qui l'a commandé comme preuve.
Pendant très longtemps, les clients d'Aquarelle croyaient que c'était des photos standards. Donc on a été obligé de prendre la photo du bouquet dans la boîte. Pour
et alors comment vous est venue cette idée?
L'idée, elle est venue comme ça. Donc, en décembre 97, effectivement, on a vendu 31 bouquins, parce qu'il y a 31 jours. J'avais dit à nos collaborateurs, on va en vendre au moins un par jour. Mais j'en ai acheté 22. Mais il y a quand même eu 9 personnes en 97 qui ont mis leur numéro de carte de crédit et tout. Ils étaient vachement confiants. Alors que là, oui, on va en vendre à peu près 1 million cette année. Et pour revenir au sujet, si vous voulez, le numérique ne vous permet pas de faire des choses tellement différentes quand il s'agit d'avoir des clients et de faire des bons produits. Nous, on a fait beaucoup d'affaires à Internet. Hein, c'est nous qui avons fait, avec d'autres associés, Mr. Good Deal. On a fait mon album photo. Familéo, qui est en train de devenir un grand succès, c'est aussi... Donc, Internet vous permet de structurer certaines idées qui existaient déjà d'une façon différente et d'en assurer le développement. Ça vous permet de tester très vite ce que vous faites sur votre site. Votre site, il est magnifique. J'ai passé pas mal de temps dessus à le regarder. Bravo, il est extrêmement bien fait. Mais finalement, le client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un bon produit, il veut qu'il ne soit pas cher et que ça arrive à l'heure où et toutes ces données-là, Internet vous permet de les gérer mieux, c'est-à-dire qu'on peut faire un excellent service client quand la chaîne numérique d'une production est bien faite, c'est-à-dire quand vous savez qu'un colis qui doit être livré à M. Dupont, en fait, il ne va pas arriver, parce que si votre chaîne est bien faite, normalement, le logisticien doit vous dire qu'il n'a pas pu le livrer, et pour ça, il faut l'appeler avant, c'est-à-dire qu'il faut appeler M. Dupont en lui disant, bah, à côté, votre colis, il n'arrive pas. C'est d'autant plus vrai pour nous, pour des couches, parce que je pense qu'on en a plus que pour le lendemain, c'est que les bouquets de fleurs, ils sont envoyés non pas à vous-même, mais ils sont envoyés à quelqu'un à l'occasion d'un événement heureux ou triste pour lequel les fleurs, finalement, sont un support de l'émotion qu'on veut véhiculer. Et cette émotion, elle correspond en général à une date précise. Et donc les incidents de livraison sont très troublants, les gens sont très déçus, donc c'est très difficile de gérer ça grâce à Internet maintenant. Ça a mis beaucoup de temps. Disons que les logisticiens sont à peu près équipés numériquement, donc ils sont capables de vous tracer votre colis jusqu'au bout. Et donc être bon dans ce système-là, c'est d'être capable de devancer le désappointement de celui qui ne va pas être livré en le prévenant avant.
Je vous rassure, tomber en panne de couche, je crois que c'est aussi déroutant, je pense. Ah bon.
Non, mais comme il y en a beaucoup dans les colis, j'ai regardé et que l'abonnement est bien fait, elles arrivent toujours bien. Okay. Même si elles arrivent le lendemain, il y en a.
Sandra, votre business à vous, est-ce qu'il pourrait exister sans Internet ? Est-ce que cette mise en relation à distance entre des coachs ou des entraîneurs et des étudiants ou jeunes actifs pourrait se faire sans Internet ? Et puis deuxième question, est-ce que comme finalement pour les bouquets, c'est important d'avoir la photo de vos intervenants sur le site ? Est-ce que ça rassure cette présence physique et en tout cas cette transparence sur l'interlocuteur à qui on va avoir affaire ?
Alors c'est marrant ce que vous dites parce qu'effectivement on avait hésité au début, on s'est dit tiens on va monter une école de la prise de parole, de la préparation à l'entretien. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était un marché où beaucoup de gens le faisaient de façon un peu amicale, de façon bénévole dans des associations, vous devez être nombreux à le faire. Et on s'est dit tiens c'est vrai que en fait c'est un vrai métier que d'entraîner à la prise de parole, que d'entraîner à préparer un entretien, pas que sur la forme, parce qu'on peut dire bah, je suis à l'aise, je peux parler facilement, mais aussi sur le contenu, comment on a un contenu percutant, structuré, impactant, qui permet de faire passer ses idées et de valoriser ce qu'on a fait. Et donc finalement on s'est dit tiens, est-ce qu'on le fait façon école, traditionnelle, ou est-ce qu'on le fait avec Internet ? Et on a décidé de plutôt créer cette communauté sur Internet. Donc on a récupéré, sélectionné, formé un certain nombre d'entraîneurs, entraîneurs-coachs, hein, qui peuvent être des jeunes qui ont effectivement passé tous les concours d'entrée école et qui sont dans des écoles. Ça peut être des coachs, ça peut être des entraîneurs experts RH, des formateurs, des cadres, des chefs d'entreprise. Et donc on a rassemblé cette communauté à la méthode IAPUCA, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une unité globale. Et de notre côté, on est allé chercher les jeunes. Alors, on va chercher les jeunes dans les salons étudiants, avec les médias, réseaux sociaux, etc. Et donc, on s'est dit, on va se faire une plateforme qui va permettre de rencontrer l'offre et la demande. Comme ça, ce sera beaucoup plus accessible. Alors, c'est vrai qu'avoir la photo, avoir le profil de l'entraîneur, ça rassure, encore une fois. Donc ça, effectivement, Internet le permet. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas porte ouverte à celui qui dit « Tiens, j'aimerais bien entraîner des jeunes. » Il faut qu'il y ait un prérequis de professionnels qui fassent partie de jury, etc. Donc, il y a une sélection. Voilà. Plutôt que ce n'est pas open bar, on sélectionne nos entraîneurs et on les forme. Voilà. C'est un peu, on va dire, un portail, mais plus une plateforme avec une sélection d'entraîneurs. Et c'est vrai qu'Internet nous permet d'aller plus vite, forcément. Mais là où je trouve intéressant, c'est qu'on parlait du business model. C'est vrai qu'on est plutôt... On a démarré en B2C, donc effectivement, les individus qui viennent sur la plateforme, qui choisissent leur entraîneur, les jeunes. Mais assez vite, on s'est dit, le B2C, c'est long. Aller chercher quelqu'un qui achète un bouquet de fleurs, aller chercher quelqu'un qui achète des couches. Et donc, assez vite, on s'est tourné vers le B2B, qui est en fait les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les Sciences Po, les écoles d'apprentissage, de la Chambre des commerces, etc., Subdevente, la Fabrique, etc., qui, effectivement, nous mandatent pour faire des séminaires, des bootcamps, des trainings et des cours sur Internet. Donc c'est vrai que le modèle économique, c'est vrai que B2C, c'est long, c'est coûteux d'aller chercher individu par individu, alors que le B2B, ça va quand même plus vite et le panier moyen est plus fort. Et je le dis d'autant plus que...
Finalement, on dit souvent que le digital ou le numérique permet d'aller chercher des clients n'importe où, même à l'autre bout du monde, etc. Mais ça reste quand même compliqué.
Alors ça reste compliqué parce qu'il faut aller chercher un par un, hein, le B2C, sauf à avoir comme Uber ou d'autres 100 millions à mettre sur la table en termes de pub, mais et perdre de l'argent pendant longtemps. Est-ce qu'on est capable de perdre de l'argent pendant longtemps? Et je le dis d'autant plus que j'avais créé une première société qui s'appelait Canal CE, Calidea, et qui était un modèle B2B puisqu'on s'adressait au comité d'entreprise avec un abonnement. Donc il y a quand même deux vertus, le B2B et l'abonnement, c'est une façon d'avoir un peu de pérennité. Voilà. C'est pour ça qu'on cherche aussi des modèles avec abonnement chez Yapuka, parce que je pense qu'un abonnement, ça permet aux gens d'être réguliers, de recommander, de créer une relation avec leur entraîneur ou leur plateforme. Voilà, c'est vrai que... je ne sais pas quelle était la deuxième question, mais voilà, B2B, B2C, c'est important et je crois qu'il n'y a aucun modèle qui ne peut se contenter que du B2C parce que c'est trop long à rentabiliser.
Maxime, vous êtes d'accord avec ça, vous, vos modèles, puisque vous avez plusieurs casquettes et entreprises, est-ce que vous gagnez plus d'argent en allant chercher des consommateurs ou des clients ou des membres individuellement ou en ayant une approche plus vers des grands comptes ou des grands groupes?
Ouais, je dirais que le B2C, c'est plus compliqué, mais après, il y a une sorte de magie là-dedans aussi. Quoi. Quand on arrive à atteindre une sorte de volume, de masse, et que ça a la vertu de s'auto-entraîner après. C'est-à-dire qu'on a, dès qu'on atteint un volume assez conséquent, c'est effectivement la recommandation, le bouche-à-oreille, la communauté. C'est vrai que sur Vinmerd, on a trouvé un petit peu, on a essayé de théoriser un petit peu sur Vinmerd qu'on a lancé dans d'autres pays. Et on s'était dit à partir de 10 000 personnes, 10 000 visiteurs par jour, on commençait à avoir l'entraînement automatique. C'est-à-dire qu'à 10 000, 3 semaines plus tard, il y en avait 30, etc. En gros, toutes les 3 semaines, ça doublait le trafic automatiquement à partir du moment où on arrivait à atteindre 10 000 personnes. Bon, après, il y avait le travail de la qualité, du contenu, etc., qu'on savait déjà faire. Mais ce n'est pas parce qu'on a le meilleur contenu qu'on pourra attirer les gens. C'est comme quand on a un blog, ce n'est pas parce qu'on a un avis que ça vaut le coup de l'écrire. Quoi. Et parce que je dis ça parce que c'était mon blog à la base. Donc, voilà. Ça, c'était un blog qui a marché. Voilà. Un des rares. Et je dirais que le B2C est intéressant pour ça. On n'est pas forcément dans la rentabilité immédiate, mais on est dans la valeur qu'on peut apporter à l'entreprise ou à la marque en général. C'est-à-dire qu'une marque qui parle à tout le monde, ça a plus de valeur qu'une marque qui est vendue que à trois boîtes en B2B, sauf si c'est trois industries pharmaceutiques même. En tout cas, le modèle est plus compliqué.
Du B2B2C.
Et voilà, après nous, c'est notre modèle. Voilà, après nous, c'est notre modèle, notamment sur Beta Série, où on a une application, un site web qui est dédié aux personnes, donc à tout le monde. C'est du entre guillemets B2C, même si on ne gagne rien sur l'application. C'est gratuit, sans publicité. Parce qu'après, nous, on conseille les médias et les chaînes de télé sur ce que les gens regardent. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut faire qu'avec Internet. Je dirais que même les séries télé existent que parce qu'il y a Internet aujourd'hui. Si on n'avait pas le moyen de les diffuser partout dans le monde, un épisode ne serait jamais rentabilisé aujourd'hui dans un seul pays. C'est complètement impossible. Et donc le meilleur moyen de les marketer, c'est forcément de les diffuser partout dans le monde. Et auparavant, les grands salons où les gens achetaient leurs séries et les diffusaient l'année prochaine, ça n'existe plus. Quoi. C'est, on se rappelle quand même, il y a 10 ans, et c'était qu'il y a 10 ans, on regardait Lost sur TF1 pendant l'été. Les mecs, ils ouvrent la trappe. On ne sait pas ce qu'il y a dans la trappe. Il fallait attendre un an que ça repasse sur la chaîne, alors que deux semaines après, ça passait aux États-Unis, sur CBS quand même. Et donc maintenant, on se dit c'est plus impossible. Maintenant, une série qui sort, elle est partout dans le monde entier. On se demande même plus si c'est compliqué de la sous-titrer, de faire la VF, etc. Ça sort partout dans le monde et ça coûte très très cher. Et donc nous, on est là pour essayer de conseiller les vieilles chaînes, entre guillemets, qui ont des vieux outils pour faire ça.
Vous nous parliez de votre communauté, de la façon dont vous l'avez développée. C'est quelque chose qui peut intéresser n'importe qui, quelqu'un qui lance son business, quel qu'il soit. Vous, quels sont les trucs qui ont marché et que vous pourriez recommander des choses très concrètes et pratiques pour développer une communauté, toucher une audience? Par quoi on commence quand on monte sa boîte, une fois qu'on a son site, simplement, ou juste son business?
Je dirais qu'une fois qu'on a lancé son site, c'est trop tard. Je pense que le vrai bon conseil, c'est de commencer avec une communauté avant. Et justement, je pense que Facebook, par exemple, c'est magique pour ça. C'est le meilleur incubateur de start-up du monde. Il faut en profiter avant que ça devienne payant. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, créez votre page Facebook avec votre service. Mettez des gens en relation entre eux. Bon, je parle vraiment de service, mais c'est quand même aujourd'hui ce qui est le plus scalable, je dirais. C'est là où on peut aussi éventuellement créer une communauté. À partir du moment où vous allez rendre un service de manière directe ou indirecte et que les gens vont se mettre en contact entre eux, vous allez apporter une plus-value sur le projet qui peut après être plus loin, sur du commerce, sur de l'événementiel, sur plein de choses. Mais au moins, vous arrivez avec des vraies data. Si vous avez 10, 15 000 personnes qui sont inscrites à votre page et que vous savez exactement qui elles sont, où est-ce qu'elles habitent, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles achètent régulièrement, parce que Facebook vous donne tout ça gratuitement, c'est magique. Vous allez voir un investisseur, vous dites « Ok, j'ai rien, mais j'ai quand même une page avec 15 000 personnes. » Moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y a une page Facebook qui s'est revendue. Ça se revend, les pages Facebook. Hein, c'est déjà des entreprises en elles-mêmes. Mais au moins, quand vous créez votre site, vous savez les besoins, vous savez ce que les gens vont utiliser sur votre site et ça évite de créer... comme j'ai tous les trois jours, parce que j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise qui viennent me voir et qui me disent « Moi, j'ai envie de créer une application, c'est comme Facebook. » Je dis « Oui, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. » Donc aussi, ça permet de cadrer un petit peu là où on va et avec qui on crée son projet.
Je vais opiner.
Non, en fait, nous, quand on a lancé, donc on n'avait pas de produit, quand on a lancé, donc on a créé une communauté. Et en fait, il y a un outil qui est très bien qui s'appelle Kickoff Labs, qui est en fait un outil qu'a utilisé Harris, qui est le concurrent de Dollar Shave Club. Dollar Shave Club, c'est la boîte qui a été revendue 1 milliard de dollars à Unilever. Ils avaient pris 7% de part de marché à Gillette. Et en fait, Harris, quand ils se sont lancés, Dollar Shave Club existait déjà. Et eux, ils ont utilisé le module Kickoff Labs, qui est en fait une page unique où vous avez quelques messages clés où on parle pas, en l'occurrence nous on parle pas d'argent et Harris parlait pas d'argent non plus, et on a juste des boîtes mail en mode voilà, proposition de valeur, ça vous intéresse, mettez un mail. C'était très simple, c'était très basique. Harris a récupéré 100 000 emails comme ça. Nous, on s'est lancé aussi comme ça en France. Là, on vient de se lancer aux Pays-Bas. Enfin, on se lance officiellement aux Pays-Bas vendredi. On a reproduit ce schéma-là et ça marche hyper bien. C'est un moyen assez gratuit de générer du lead, comme tu disais, et qui permet d'ailleurs de commencer d'agréger de la data et surtout de tester les propositions de valeur. Parce qu'une page Kickoff Lab, ça vous coûte, je sais pas, peut-être 10 balles par mois ou peut-être 15, j'en sais rien. Et si vous avez un doute sur la proposition de valeur, vous en faites 3 ou 4, vous faites 3 ou 4 pages Facebook et puis derrière vous testez 3 ou 4 propositions de valeur et vous voyez quelle est celle qui parle le plus aux gens. Et ça, c'est un très bon moyen de commencer déjà d'agréger de la data. Un mail, c'est précieux, et surtout un mail d'un mec qui vous dit je suis intéressé. C'est presque un petit peu comme les gens qui mettent de l'argent sur des campagnes de préachat sur Kickstarter & Co. Donc c'est un outil qui est assez facile et qui permet donc de ne pas engager tous les frais, faire un site en entier, développer un produit en entier et de commencer d'aller chercher un petit peu de la data, de la matière et d'avoir un premier retour. Moi, c'est un outil que je conseille beaucoup aux jeunes entrepreneurs parce que je trouve qu'il a beaucoup de vertus, il ne coûte pas très cher, il n'est pas très compliqué à mettre en place et il permet de commencer à avoir une discussion parce que derrière, il y a tout un flow d'emails, on peut mettre des incentives de sign-up en disant si ça te plaît, invite 5 copains, tu auras 10% de réduction sur ta commande, etc. C'est très bien fait, c'est un peu ludique en plus, c'est pas compliqué. Moi, je suis nulle en code, je suis désolée, c'est mon rêve. Le rêve de ma vie, ce serait de savoir coder et je sais coder des trucs très très basiques, j'ai un peu honte, mais je suis capable de le faire. Donc si je suis capable de le faire, faites-moi confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Vous n'étiez pas forcément d'accord tout à l'heure avec l'approche B2B ou B2C. Vous, votre modèle est un peu différent, puisque alors c'est du B2C, mais avec de l'abonnement. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que le numérique change dans la relation avec ses abonnés, puisque vous pouvez, vous le disiez là à l'instant, avoir un dialogue quasi quotidien avec eux?
Alors déjà, du B2B, on en fait. Aujourd'hui, on a une quarantaine de crèches, une dizaine de maternités qui travaillent avec nous. Mais en fait, on est dans un marché totalement inversé. C'est-à-dire que normalement, le B2B, c'est là où il y a l'argent parce que les corporates sont prêts à mettre plein de sous là où, en tant qu'individu, on a un panier de dépenses qui est forcément limité par nos revenus. Alors que dans la couche, c'est exactement l'inverse. Il y a un capital sur M6 qui est sorti il y a quelques temps sur le sujet et qui montre des pratiques complètement folles, des redevances versées par BBD, enfin des trucs complètement hallucinants. Donc nous, on est dans la dynamique inverse. C'est plutôt compliqué de réussir à faire payer des gens pour acheter des couches pour des établissements. La récurrence, c'est... Alors, moi, j'étais très marquée par ma première boîte. On n'avait pas de business model. Je me suis dit, si tu fais une boîte, cette fois-ci, il faut quand même que tu aies un business model. Et c'est vrai que l'abonnement, c'est assez fabuleux parce que c'est un lien qui se crée. Le moment où qui que ce soit fait une première commande sur June.fr, moi, je commence une discussion avec cette personne. Et la discussion avec cette personne fait que je vais avoir plein d'opportunités d'améliorer son expérience client, mais mais j'aurai aussi plein d'opportunités de lui salir. Donc c'est mon job à moi d'être sûr que je suis en train de construire une belle histoire. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, alors il y a plein de boîtes qui se sont montées, on parle beaucoup de dropshipping, on dit le dropshipping c'est scandaleux, mais en gros le dropshipping c'est un peu comme un soir, vous avez envie, vous allez sur Tinder et le lendemain c'est fini. Nous, on crée une grande histoire d'amour qui prend du temps, qui demande des preuves. Et ça, je trouve que c'est la beauté, entre guillemets, de l'abonnement, c'est qu'en fait, on a énormément d'opportunités de dialogue et d'échange avec la communauté en face, et donc derrière, à la fois d'améliorer son expérience, de produire de plus en plus de choses qui correspondent exactement à ce qu'ils cherchent, et justement de s'inscrire dans, une, dans quelque chose de très long et de très durable. Et ça rejoint beaucoup les valeurs de June, la transparence, avoir un impact positif, avoir amené de la bienveillance économique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire si on veut faire du quick and dirty. Ça ne marchera pas.
Est-ce que vous pouvez expliquer le dropshipping à Dominique? À moins que c'est Tinder que c'est vous n'aviez pas compris.
Vous ne connaissez pas Tinder.
Ah, c'est, non, pardon. En deux mots, quand même, peut-être que...
Alors j'ai un peu... Voilà. Mais donc c'est bon, le
dropshipping. Non, mais peut-être que...
Le dropshipping est peut-être plus...
C'est moi
technique.
Qui n'osais pas, en fait, demander.
Alors, en gros, le dropshipping, bah, c'est un des dévers de l'Internet. C'est que finalement, maintenant, vous pouvez faire un faux site vitrine et vous pouvez faire des appels d'air avec des produits vendus sur des sites genre Alibaba ou AliExpress. Vous achetez un truc qui coûte 1,50€ et vous le vendez en France en disant ça coûte, 12€ et vous faites une marge folle dessus. On fait ça aujourd'hui avec n'importe quoi, les fringues, les bijoux, il y a même des gens qui font ça avec les médicaments.
Même quelqu'un qui a fait ça avec une compagnie aérienne récemment, c'était dans l'actu la semaine dernière, si vous l'avez vu, une vraie fausse compagnie aérienne avec le site qui allait avec, mais pas d'avion.
Mais c'est vrai que
on peut tout faire.
C'est un des problèmes, c'est-à-dire que la limite entre le gros hacking bien fait et le gros hacking border légal, elle est assez floue. C'est-à-dire qu'un gros hacker, par essence, doit être assez filou et inventif. Et en même temps, le dropshipping, c'est un peu la face non éclairée de l'Everest, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe. Il y a des marques très connues aujourd'hui qui sont pas loin de faire du dropshipping. C'est du dropshipping habillé, mais ça n'en est pas forcément loin. Et c'est vrai que des fois, la mesure est floue. Et c'est pour ça que je trouve que la transparence, c'est une valeur qui est exceptionnelle, parce que la transparence, c'est très binaire, quoi. C'est-à-dire qu'une vitre qui est un peu sale, bah, elle n'est pas transparente. Il faut une vitre vraiment propre pour qu'on puisse dire c'est transparent, je vois à travers. Bah, pour moi, c'est soit transparent, soit non transparent, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, je trouve qu'il y a des vertus là-dedans qui sont assez fortes, et je suis contente de les défendre aujourd'hui.
Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être sur l'abonnement, Henri, vous-même, proposez-vous des bouquets sur abonnement?
Oui, mais ça intéresse personne. mais il faut, je voudrais essayer de recadrer deux, trois choses. D'abord, l'abonnement, c'est pas nouveau. Moi, j'ai travaillé dans la presse, et l'abonnement, c'est la clé de la fidélisation des clients.
Ce qu'on disait, c'est que le numérique permet un dialogue permanent que ne permettait pas forcément la voie postale auparavant.
Le numérique vous permet de gérer ça avec des coûts infiniment plus faibles. Les coûts informatiques qu'on avait autrefois dans les groupes de presse étaient considérables. Et surtout, le numérique vous rend le bouche à oreille extrêmement facile. Et c'est ça, que ce soit sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau, le meilleur marketing, c'est d'avoir un bouche à oreille qui soit percutant. Autrefois, quand il n'y avait pas ni le téléphone ni rien du tout, le bouche à oreille mettait beaucoup de temps à se diffuser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille se diffuse à une vitesse quasiment instantanée. C'est d'ailleurs très dangereux, parce que si vous faites des trucs pas bien, c'est les trucs pas bien qui vont se diffuser. Donc l'Internet apporte surtout pour cet environnement marketing une capacité d'accélération fantastique. Alors dans le cas d'Aquarelle, pourquoi les abonnements, ça ne marche pas? Les fleurs est probablement un des rares business où on n'achète pas pour soi.
Les couches non plus, normalement.
On a fait beaucoup. Mais si, on les achète pour son enfant. Quand je veux dire on ne les achète pas pour soi, les fleurs sur Internet, parce que c'est beaucoup trop cher. Faut savoir que le panier moyen des fleurs achetées par des gens pour eux, c'est 13 ou 14€ à Paris et 11 ou 12€ en province. Or, le prix de la livraison, c'est un peu, on peut le prendre dans tous les sens, on peut le cacher et tout, c'est 10€. Donc, vous ne pouvez pas acheter des fleurs pour vous sur Internet. Ce n'est pas moins cher et ce n'est pas mieux. Alors que la plupart des autres produits... On a été les premiers à vendre des frigidaires sur Internet. Quand on a commencé à vendre des frigidaires avec Mr. Good Deal, tout le monde nous a regardés comme des cinglés complets en disant « Vous n'en vendrez jamais ». Aujourd'hui, je pense que plus de 60% des produits blancs, bruns, gris, etc. sont vendus soit par Amazon, soit par Darty, etc. sur Internet. Là, les gens, ils ont l'impression d'abord d'avoir un énorme choix, de pouvoir choisir, et ils ont le sentiment, à tort ou à raison, ça dépend, de payer moins cher. Pour acheter des fleurs, vous payez plus cher et vous avez moins de choix. Donc c'est beaucoup mieux d'aller dans une boutique, il y en a partout. Donc malheureusement, l'abonnement...
pour soi ne fonctionne pas.
Ce qui a beaucoup changé, je trouve, avec Internet, c'est qu'avant, on se disait, tiens, on fait un site, il fait le job, tu commandes, tu payes, tu es livré. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, un site, c'est le prérequis, mais c'est même pas ça le sujet. C'est vraiment toute la chaîne et toute l'expérience, cette fameuse expérience client. Maintenant, on veut que ce soit fluide, que ce soit sans couture, qu'on arrive à trouver ce qu'on veut, qu'on nous fasse de bonnes suggestions, qu'on commande, que ce soit livré dans les temps, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est plutôt l'exécution, en fait. Hein. C'est l'usage qu'on fait des achats sur le site Internet. Et ça, ça a tout changé parce que le site ne suffit pas. C'est un moyen comme un autre, comme une vitrine, comme un téléphone, comme du Minitel. Mais ce qui est important, c'est l'expérience client. Et c'est vrai qu'on essaie de la faire bien. Quoi.
De nombreux cas, plus simple, immédiat. En plus, vous pouvez vous plaindre tout de suite. Donc, d'ailleurs, les clients sont devenus épouvantables. Aujourd'hui, les clients sont d'une violence incroyable. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur ce que vous recevez, sur des sujets qui ne le méritent pas. Donc, il y a une exigence client qui est considérable. Et si vous voulez réussir dans le commerce en ligne, vous devez avoir une exigence vous-même considérable aussi, de transparence, de répondre aux clients avant même pratiquement qu'ils vous aient demandé quelque chose par rapport à la commande qu'ils ont fait. Et ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de patience. Là.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Ouais, en fait, pour moi, il y a aussi un sujet de personnalisation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de data et puis des fois, on ne sait pas trop... Enfin, moi, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était que la data, hein, donc, très honnêtement. Et en fait, il y a un truc assez fabuleux. Pour reprendre l'exemple de ce que vous disiez tout à l'heure, quand on envoie un magazine tous les mois à quelqu'un, on lui envoie un magazine. Sauf que maintenant, la personne qui vient sur votre site Internet, vous allez être capable de dire « Ok, je vois qu'elle passe 83% de son temps sur la page de, je sais pas moi, mon gel lavant pour enfants. » Pourtant, elle ne l'achète pas. Donc, je me dis quand même, elle l'aime bien. Elle en a peut-être presque vraiment envie. Et grâce à cette data, moi, je suis capable derrière de lui dire, bah, en fait, le magazine que je t'envoie le mois prochain, je vais le personnaliser à ton goût parce que je commence à comprendre tes goûts. Et c'est ça la conversation qu'on commence à faire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la data et de la façon dont on donne de la data gratuitement. Tu as parlé des GAFA tout à l'heure. Et ça, c'est le versant un peu scandaleux. L'autre versant qui est quand même assez positif, c'est que la data nous permet aujourd'hui d'amener une expérience client qui est exceptionnellement personnalisée pour les gens et qui, derrière, est extrêmement scalable parce que c'est ça l'enjeu. Si on doit derrière chaque personne dire « Alors, j'ai vu qu'elle a fait tel truc, donc je vais lui imprimer moi-même son magazine avec exactement les bonnes pages. » C'est là où je trouve Internet a amené une vraie révolution. C'est que l'agrégation de toutes ces datas-là nous permet d'avoir une expérience client qui est extrêmement précise et modélisée sur les choix des parents. Enfin, en l'occurrence, pour nous, des parents. Et je trouve que c'est ça qui est une vraie force. Et c'est là où, finalement, je veux dire, aujourd'hui, on est une marque de couches, de cosmétiques, de textiles, certes. On a 8 personnes sur les 44 salariés de leur job, c'est de la tech et de la data, alors qu'on n'est pas du tout une boîte de tech. Et sur le papier, je veux dire, on ce serait pas un besoin, mais c'est un besoin. Et vous avez des marques, une marque américaine qui s'appelle Hims. Je vous invite à regarder si vous êtes un homme, ça va beaucoup vous faire marrer. Ils ont levé 100 millions de dollars l'année dernière. Ils ont 400 data scientists chez eux. 400 data scientists. Et les mecs, ils vendent des produits pour érection aux hommes sur Internet. Quoi. C'est fascinant. Parce qu'ils ont compris que la data était la manière d'utiliser la data pouvait être utilisée à bon escient pour améliorer l'expérience client, pour améliorer le chemin qui derrière conduit à évidemment un acte d'achat.
Dominique, vous voulez rajouter quelque chose ? Parce que finalement, peut-être tout ça ressemble à du business comme on le faisait avant, avec des outils modernes.
Il est vachement sympa, c'est à moi qui pose la question comme ça, le business d'avant.
Ça va, c'était pas sur les érections.
Ouais, t'as raison. Je me suis dit, il va me lancer là-dessus. Je veux dire, moi j'entends et depuis tout à l'heure j'écoute et je me dis, ils pensent quoi dans la salle ? Combien de personnes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, veulent créer une boîte ? Mais déjà, combien ont une boîte ? Ok, baissez les 1. Combien n'en ont pas et voudraient en créer une ? Ok, bon, vous avez bien fait, c'était la bonne. C'est la bonne. Vous avez bien fait de venir. Internet est un outil. Comme un magasin, c'est un outil. Comme la vente par correspondante est un système ou un outil. Aujourd'hui, il y a les gens qui font du multicanal. Ça a l'air de bien marcher. J'ai dit tout à l'heure, on peut créer un site avec 100 balles, machin, tout ça, pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Alors, on est sur le machin, on peut dire dans les soirées, j'ai créé ma start-up, ok, ça, on ne touche pas un rond quoi, avec ça. L'intérêt, pour les, de mon point de vue, pour les gens qui sont dans la salle, c'est quoi mon business et comment je peux le vendre. Si je fais de la, le mot barbare, disruption, ok, pour faire ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on imagine. Quand Carole dit, chez nous, il y a 8 personnes qui font de la data, et c'est loin du système « je te vends des couches », d'accord, les personnes qui vendent de la data, aujourd'hui, tout le monde en cherche, ça coûte une blinde. Le pas de porte d'une boutique, je ne sais pas si c'est beaucoup moins cher. D'accord, c'est des ventes complémentaires. Aujourd'hui, Amazon, ce site qui ne paye pas, je crois que ça ne paye toujours pas d'impôts en France, comment dirais-je, ont ouvert des magasins. Moi, je connais une jeune entreprise, c'était, vous avez parlé du Mouji, c'est le premier Grand Prix Mouji, c'est Fago. Fago qui lance avec 5000 balles aujourd'hui pour lancer une ligne de souliers, de tennis plus exactement, de basket. Aujourd'hui, ils sont dans, peut-être dans 200 pays, voilà. Et en plus, je suis ravi parce que, bien sûr, Grand Prix Mouji, mais jeune élu de la Chambre de commerce de moins de 30 ans. Vous ne saviez peut-être pas qu'à la Chambre de commerce, il y avait des chefs d'entreprise qui avaient moins de 30 ans. Je vous le dis, hein. Maxime, c'est pour toi ça. Comment dirais-je ? Eh bien, ils ont commencé sur le net et ils ont ouvert leur premier magasin. D'autres ouvrent leur magasin parce que c'est cette mixité qu'il y a. Et pour moi, Internet est aussi fantastique que terrible, mais fantastique, c'est un amplificateur de rapidité. Et ce que disait Henri tout à l'heure, fais un truc vachement bien, tout le monde va le savoir. C'est un truc qui n'est pas terrible, parce que quand on monte une boîte, ben, le tip-top, je ne fais jamais d'erreur. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas vu de gens qui faisaient jamais d'erreur. Il y a une amplification pareille, et là, il faut être bardé de l'autre côté. Donc, dans la salle, vous devez vous poser la question. Bon, ok, c'est super, on va faire le machin, les datas, déjà, il faut les trouver. C'est comment vous montez, vous, votre business. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous, ce que vous avez dans votre tête et ce que vous avez dans votre ventre. D'accord ? Et à travers ça, de savoir par quel moment vous allez commencer à lancer, à tester des choses, comme le dit Maxime, je partage également, hein, bien sûr, à tester pour savoir si derrière, vous allez pouvoir vous créer une communauté, parce que la communauté à qui vous pourrez vendre plein de choses, quand Carole dit, j'ai commencé avec des couches, mais j'ai 40 produits, elle s'est dit, ben, je leur parle, elle me répond, je vais leur parler d'autre chose, et ça a l'air de marcher. Mais il y a énormément, je ne sais pas si Carole a fait une levée de fonds, j'en sais rien. C'est le truc à la mode, les levées de fonds. Hein.
Non, bah nous, on a levé l'année dernière auprès d'Alven, qui est un fonds français et qui, en plus, est un des rares fonds qui a plus de 20% de femmes fondatrices ou dirigeantes.
Ouais. Comme quoi, c'est vachement bien aujourd'hui d'être une femme pour monter un business. Hein. Moi, je trouve. Hein. Je vais essayer de monter un petit truc pour les mecs, parce qu'on est mal barré, je vous le dis. Hein, je vous le dis.
On a encore de la marge, je crois, Dominique.
Non. Je ne suis pas pour les quotas féminins. Non, je ne suis pas pour les quotas, sauf pour celui des femmes. Là, je sens que je vais me faire des amis et des ennemis. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce que je pense que d'avoir les quotas pour les femmes, c'est le seul moyen que nous avons, nous les mecs, de garder un petit peu de place pour nous, parce que je suis d'accord avec toi, Henri, elles sont beaucoup plus directes, beaucoup plus simples, et quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, et je ne pense pas à d'autres choses. Et par contre, c'est beaucoup plus simple. Ce que tu as oublié tout à l'heure, Henri, c'est que les mecs, en plus, ils veulent tout le temps ta place.
Dans une de mes activités, je suis aussi actionnaire d'une petite maison d'édition. Et on a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Sauvons les garçons ». Et c'est très intéressant. C'est deux gars du CNRS qui ont écrit tout ça. Et les féministes durs, à mon avis, se trompent. C'est dans les jeunes générations, quand vous regardez comment sont faites les sélections, les écoles commerciales ont des quotas, parce que sinon il y aurait trop de filles. Parce qu'un garçon de 17 ans, il n'a pas du tout la maturité d'une jeune femme de 17 ans. Et donc aujourd'hui, les garçons sont, à mon avis, ça dépend des milieux, mais globalement, très désavantagés.
Sandra, peut-être un mot là-dessus quand même, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord, vous qui intervenez souvent sur ces sujets.
Alors si, moi je milite sur le fait qu'être une femme, encore maintenant, mais profitez-en, ça ne va peut-être pas durer, c'est un avantage. On le voit bien, ne serait-ce que dans les chefs d'entreprise, 30% des entreprises sont créées.
C'est une réalité. Je pense que dans de nombreux cas, elles ont une énergie et une capacité à trancher.
Et c'est vrai.
Forte.
Mais moi, c'est pas pour autant qu'on est plus favorisé. Enfin, le Galion a sorti il y a pas longtemps une étude. J'en fais partie et je fais partie des filles qui ont été interrogées. Et sur des startups ou sur des entreprises qui ont levé exactement les mêmes montants, tous les salaires sont 30% moins faibles. Et là, on n'a aucun moyen de dire c'est parce que il y a. Non, c'est parce que rien du tout. C'est une start-up qui lève les mêmes montants sur les mêmes montants. C'est 30% de moins en salaire. Et c'est le pire, c'est que quand on est fondateur de sa boîte, on choisit son salaire. C'est-à-dire que moi, mon salaire, je l'ai choisi. J'ai pas besoin de beaucoup de sous. J'ai dit, moi, je veux tant, j'ai pas besoin de plus. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est l'autocensure parce qu'on se dit, je suis une femme et déjà, j'ai la chance d'avoir mon entreprise, donc j'ai pas trop à les raquer de l'argent.
Ça confirme qu'elles sont meilleures.
Non,
c'est... Moi, j'ai pas de salaire dans ma boîte.
Quand vous
fondez votre boîte, vous avez intérêt à avoir un salaire le plus petit possible.
Non, mais c'est vrai qu'on pense.
Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les mecs, au-delà de ça, je veux dire, quand on fait une levée de fonds,
je suis pas sûr qu'on puisse régler la
question. Non, mais c'est quand même un sujet parce que là, on parle, d'accord, mais en face de nous, il y a des gens qui n'ont pas encore montré l'entreprise, qui aujourd'hui sont encore dans le salariat et qui ont ce problème-là tous les jours. Et c'est vrai que c'est un sujet, quoi. Moi, quand
vous disiez, le numérique est un secteur récent et malgré tout, c'est là aussi il y a encore et beaucoup d'inégalités.
C'est marrant quand même de dire quand même on est censé être avant-gardiste et même sur ça on est complètement iso avec des gros corporates et pourtant personne nous tape sur la gueule en disant c'est nul quoi. Alors que
le conseil à donner c'est quand on crée une boîte il faut se rémunérer. Voilà, il y a trop de gens qui passent un an, deux ans, trois ans sans se rémunérer et croyez-moi, on met ses tripes sur la table régulièrement, on passe beaucoup de temps au détriment parfois de sa vie privée, etc. Donc c'est passionnant mais ça mérite une rémunération ne serait-ce pour reconnaître la valeur de ce qu'on fait.
Tout à fait d'accord.
Le temps passe très vite. On n'a pas dit du tout de mots sur le mobile, alors que c'est essentiel aujourd'hui quand on parle de numérique. On a parlé d'écran, de Minitel, etc. Peut-être, Maxime, juste pour... Alors, je crois que sur Aquarelle, c'est près de la moitié des commandes aujourd'hui qui sont faites sur mobile. Vous, Maxime, quel est le pourcentage de vos visiteurs qui viennent selon les sites sur mobile pour avoir bien ça en tête, parce que c'est essentiel quand on monte un business de penser quand même mobile aujourd'hui.
Alors, nous, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié, enfin sur Beta Série en tout cas. Beta Série, bon, ça a 11 ans. Donc, historiquement, on a quand même beaucoup de gens sur ordinateur, mais toutes les nouvelles inscriptions, c'est au minimum 50% sur mobile. Et quand on lance des nouveaux pays, on le fait que sur mobile. Donc, c'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à faire le site web où on le fait vraiment quand on commence à avoir une taille critique. C'est vrai que nous, ça a été un vrai moteur de croissance. Je reprends l'exemple de Vinmerde, où on a été les premiers à lancer une application en divertissement quand l'iPhone est sorti. Et on a été premiers de l'App Store en divertissement pendant plus d'un an. Alors, effectivement, c'est bien d'être premier, mais surtout, c'est les revenus publicitaires qui vont avec, puisque les régies étaient toutes nouvelles, les budgets étaient énormes. Et c'est vrai que l'avantage d'être bien placé sur des secteurs qui sont porteurs, c'est extrêmement important. C'est vrai que on a toujours l'impression que c'est un peu quand ça fait 20 ans qu'on conseille aux gens de créer un site internet. Donc c'est vrai que ça fait toujours bizarre de dire ça, mais le site c'est vachement bien, mais ça reste un outil. Là où vous devez être important, là où vous devez faire attention si vous voulez gagner de l'argent et bien vous positionner, c'est tous les nouveaux marchés qui arrivent, les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux moyens de consommer, tous les nouveaux moyens finalement de faire votre business. C'est des moyens auxquels on pense pas forcément. Ça peut être des textos, ça peut être par Snapchat, ça peut être par plein de choses. Alors ce qui est important, c'est de le tester. Si ça marche pas, vous arrêtez tout de suite. Mais si ça fonctionne, c'est quand même des relais qui sont importants.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que le digital, c'est pas que le code. C'est utiliser le digital. Et tout le monde n'est pas né comme Maxime avec Internet. Et même s'il y en a beaucoup, j'en vois beaucoup bouger. Mais ce qu'il faut, c'est se former à ce genre de choses. Et je voulais juste faire, pour un peu de pub, mais à la Chambre, nous avons un site qui s'appelle Les Digiteurs, qui permet, notamment pour les e-commerçants, de pouvoir, mais pas que, de pouvoir se former avec tous les outils, parce que sur cette plateforme, il y a et des produits et des services qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir apprendre pas à pas, en conseil et en produit, de pouvoir développer leur business sur Internet. Parce que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde de pouvoir découvrir. Je veux dire, il y en a qui sont nés avec, quand je dis qu'ils sont nés avec, ils ont cette dextérité mentale et tout ça. Mais parfois, ce n'est pas forcément évident. Enfin, je ne sais pas si dans la salle, vous êtes tous à fond les gamelles, à 200% en maîtrise parfaite d'Internet. Levez le doigt. Moi, c'est marrant, tu n'as plus là. Ah, bravo, bravo, monsieur, vous avez levé le doigt.
Il n'y en a qu'un à 200%. Alors, un conseil peut-être pour ceux qui ne sont pas encore à 200% et qui voudraient se lancer, puisqu'on arrive à la fin, peut-être un dernier petit conseil.
Alors, moi, je ne connais pas le contenu, mais j'ai l'impression que Vidmerde, ça a l'air d'être pas mal. D'accord.
Merci.
Voilà. Donc, je vais y aller. Le nom, j'avais déjà entendu, mais je ne suis pas encore allé dessus et je vais y aller. Pour les couches et les petits-enfants, on va y aller. Pour entraîner les jeunes à pouvoir mieux se présenter, mieux parler, je pense qu'il n'y a plus qu'à, c'est béton. Et puis, bien évidemment, surtout, il faut envoyer des fleurs à tous les gens qu'on aime. Donc, n'hésitez pas avec aquarelle. Ça, c'était pour la partie amicale. Pour la partie business, vous n'avez pas encore le réflexe. Vous voulez créer votre boîte ? Allez voir la Chambre de commerce de Paris, allez voir la Chambre de commerce d'Île-de-France. Allez, c'est la même à peu près, mais il y a plusieurs en fonction de là où vous habitez. Les chambres de commerce, c'est le premier réseau d'accompagnement de créateurs d'entreprises et de repreneurs d'entreprises de France. Je l'affirme, c'est le premier, le plus important, d'accord ? Parfois, on peut se gourer, mais très sincèrement, c'est des milliers et des milliers de gens comme vous qui passent dans le réseau des chambres.
Donc, si vous vous lancez, même tout seul derrière votre ordinateur, pensez à vous faire accompagner.
Mais bien sûr,
à vous faire bien sûr, aider. Et ne
parce que
pas
ça vous permet de vous faire poser des questions à vous-même, parce qu'on a forcément un champ de vision qui est forcément limité. Et donc, ce questionnement, les conseillers qui sont dans les chambres de commerce, bien sûr, et bien sûr pas que dans les chambres de commerce, il faut aller dans les réseaux d'accompagnement, qui vous permettent de confronter et de tester vos idées. On les teste en lançant quelque chose, mais on le teste en voyant d'autres entrepreneurs, on les teste en voyant des gens qui ont créé des boîtes. N'écoutez pas tout ce que nous disons, d'accord ? Parce que le truc, ça ne va pas marcher, ça c'est terrible, et tout le monde l'a entendu, d'accord ? Mais en même temps, essayez d'écouter en même temps tous ceux qui vous disent « ça ne va pas marcher », vous leur demandez pourquoi. Et votre travail, c'est d'essayer de répondre à l'objection qu'ils vous font. Et quand il y a des objections, surtout allez-y, parce que ça veut dire qu'il y a certainement un business.
Maxime, votre dernier conseil ? Pour se
par rapport à, alors, par rapport pour à un lancer, site internet général. Ou un site web, moi je dirais un succès sur le web. On a un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que je dirais qu'il faut garder une promesse, c'est-à-dire qu'on va marketer un produit ou un projet ou une vision, etc. Et on va forcément avoir un moment du marketing, de la communication pour en parler. Ce qui est important, c'est pas être déceptif sur la suite. Moi, le pire que je vois, ça m'est déjà arrivé un peu moins maintenant, mais ça arrive encore. On voit une super pub à la télé pour un service en ligne ou un service web ou un truc. On va sur le site et là, le truc est tout pourri parce qu'en fait, ils ont mis tout l'argent sur la pub et rien sur le produit. Et donc là, il n'y a rien de plus déceptif. Vidmerde, quand on allait sur Vidmerde, maintenant, on l'a retiré parce que voilà. Mais à l'époque, c'était un peu les années 80 du web, c'est en 2000, 2005 et tout, c'était bien. Et donc, le slogan de Vidmerde, c'était « Ma vie, c'est de la merde et je vous emmerde ». Et ça, au moins, quand on allait sur Vidmerde, on n'était pas déçus. Quoi. Et on avait la suite et les votes, c'était « Je valide ta Vidmerde ». Et voilà. Et le deuxième vote, c'était « Bien fait pour ta gueule ». Et au moins, on était dans l'univers. Quoi. Et c'est vrai que sinon, si on met pouce bleu, pouce rouge, on ne va pas sur Vidmerde pour mettre des pouces bleus. Quoi. On va sur YouTube, on va sur plein de trucs, mais on ne va pas sur Vidmerde. Donc, ce que je dirais, et ça s'applique à tous les business, c'est ça, c'est garder qui vous êtes, votre identité, et ne l'oubliez pas. C'est pas parce que vous avez des clients qui vous dites ça serait bien si vous faisiez un truc en plus, etc. Restez déjà qui vous êtes et après gardez votre vision pour la suite de votre projet.
Henri, un mot peut-être de conclusion, ça vous parle, j'imagine, ça de ne pas être déceptif. C'est effectivement le cœur de l'offre d'aquarelle avec cette photo, cette preuve du bouquet.
Mais, en fait, je crois qu'on est entrepreneur ou on ne l'est pas déjà. Donc, il y a des gens qui le sont, des gens qui ne le sont pas. Ceux qui le sont, l'univers actuel permet de s'ouvrir plus facilement sur des opportunités ou des disruptions qui vous permettent de faire quoi ? De trouver des clients. Parce que ça ne sert à rien d'entreprendre si on n'a pas de clients. Et la première question qu'on doit se poser en disant « je veux monter ma boîte », quand on dit « je veux monter ma boîte », c'est parce qu'on a envie d'être libre d'une certaine façon. C'est qu'on a une énergie et un caractère qui fait qu'on a envie d'être libre et indépendant. Il y a plein de boîtes dans plein de métiers différents. On choisit un métier, on se dit « bon, mes clients, ça va être qui ?» Une fois qu'on sait ce qu'on va vendre à ses clients et qui vont être ses clients, Internet est un outil formidable pour les trouver, pour leur parler, pour les fidéliser, etc. Et puis tout ça, c'est, il faut travailler beaucoup, en fait.
Donc il n'y a plus qu'un, ou pas tout à fait.
Alors moi, il n'y a plus qu'un, je donnerais juste un conseil, moi. Le parfait est l'ennemi du bien. Souvent, le français veut tout faire parfaitement, la bonne étude de marché, avoir tout étudié, tout fait, tout scanné, etc. À un moment, il faut y aller, parce que ce n'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les rapides qui mangent les lents. Donc, on est décidé, on y va, au pire, comme toi, comme Smartbox, qui a eu ce gros succès, mais qui avait monté 10 boîtes avant, qui n'a pas réussi. À un moment, ça marche avec le travail, je suis assez d'accord.
Carole, vous allez manger qui, alors ?
Non. Moi, je suis 100% d'accord avec les conseils qui viennent d'être donnés. Je trouve que c'est très beau. La chose, en tout cas, que moi, je conseille à tout le monde, c'est soyez portés par vous-même et parce que ça rejoint un peu ce que tu disais, par le message et les valeurs que vous voulez mettre en avant. Parce que ça, c'est un truc que déjà, on ne pourra jamais vous enlever, qu'on ne pourra jamais répliquer. C'est-à-dire, enfin, ce sera quasi impossible que quelqu'un ait exactement la même idée avec les mêmes valeurs, avec la même qualité d'exécution. Et surtout, c'est quelque chose qui fera qu'au quotidien, une start-up, c'est vraiment un marathon. C'est la croissance, c'est très violent. C'est génial, mais c'est très violent. Ça demande beaucoup de sacrifices, donc il faut vraiment être prêt à ça. Et vous serez capable de l'accepter et de bien vivre avec ça si c'est très honnête avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez laisser comme impact sur le monde. Et je pense que ça, c'est un des conseils qu'on m'a donné. J'avais déjà ces valeurs-là sur ma première boîte. Bon, bah, ça n'a pas marché, mais au moins, quand tout est parti à l'ouest, je me suis dit, j'ai des regrets de ne pas avoir pris de décision assez vite, de ne pas vouloir être assez rapide sur certains trucs. Mais au moins, je ne me suis pas dit, mince, j'ai vendu mon âme pour un truc. Et ça, je pense que c'est un truc qui, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas, vous aurez cette fierté d'avoir réussi à vous dire, j'ai été moi-même. Et voilà. Et il se trouve, si cette fois-là, ça n'a pas marché, bah, ce n'est pas grave, ça marchera à un autre moment.
Oui, j'allais oublier quelque chose qui me paraît très important. Redire, bien sûr, ce qui vient de se dire, ce que j'avais dit en début, on ne fait que ce qu'on est. C'est fondamental, ça vient d'être dit. Mais surtout, tout à l'heure, j'ai employé le terme de levée de fonds. C'est le mot à la mode. Je voudrais juste vous dire que la meilleure levée de fonds, c'est celle que vous ferez avec la marge des factures que vous aurez avec vos clients. Ça voudra dire qu'il y a des gens qui achètent et qui payent quelque chose qui vous permet de développer votre entreprise et d'en vivre. Ne l'oubliez jamais.
Merci, merci à vous.